podcast de Radio Vatican.
29 évêques du Québec ont rencontré ce jeudi le pape François à la veille de la fin de leur première visite ad limina depuis 11 ans. Après une semaine de retraite à Riccia, près de Rome, les prélats ont discuté avec les préfets des différents dicastères romains cette semaine. Ils avaient également rencontré le pape François une première fois, jeudi 4 mai, lui exposant leurs défis pastoraux pendant près de 3 heures. Monseigneur Raymond Poisson, évêque du diocèse de Joliette, près de Montréal, revient sur la réalité de l'église québécoise et sur cette visite ad limina au micro de Samuel Blény. Il évoque d'abord l'écoute du pape François qui l'a particulièrement marqué.
C'est l'esprit, c'est l'ouverture du pape François, que François a demandé d'ailleurs à ses collaborateurs de partager, qui déteint littéralement sur les rencontres avec les dicastères et les congrégations. Ce qui fait qu'on a pu se poser ensemble, de part et d'autre, des questions en lien avec leur champ de juridiction, mais des questions peut-être qu'on pourrait penser qu'elles ne seraient pas nécessairement bienvenues. Par exemple, chez nous au Québec, une des questions qui est très importante, c'est que nous avons développé depuis plusieurs décennies une très grande collaboration avec des agents et des agentes de pastoral. Et dans l'Église du Québec, c'est principalement des femmes qui sont agentes de pastoral. Et nous avons voulu poser question, à savoir synodalité, poste de direction, poste de charge réelle dans l'Église pour des laïcs, hommes, femmes, quelle est l'ouverture, quel est l'espace. Nous comptons beaucoup sur cette collaboration qui ne remet pas en cause le leadership pastoral d'une paroisse ou de l'Église elle-même, qui, pour le moment, est donné à un ministre ordonné.
Vous avez rencontré le pape plusieurs fois. Personnellement, qu'est-ce qui vous a marqué?
Alors, c'est un service d'Église que le Saint-Père rend. C'est un service d'Église que nous avons voulu rendre, mais nous en sommes choyés. Nous avons bénéficié de 3 rencontres avec le Saint-Père. Et la première de toutes, qui a duré 3 heures, avec le Saint-Père, 7-8 chefs de dicastère ou de congrégation, nous sommes restés ensemble à discuter de notre situation chez nous, au Québec, et par rapport à l'Église universelle. Dans ce grand exercice, le Saint-Père a révélé une capacité d'écoute surprenante et dont il faut se réjouir. Et il a parlé à la fin, 10-15 minutes, pour nous laisser comme message « Lève-toi, Église du Québec, et marche, et sois missionnaire ». Parce que chez nous, et nous le lui avons redit ce matin à l'audience, lorsqu'il a publié « Evangelii Gaudium », la joie de l'Évangile, ça a été pour nous un véritable souffle, un souffle nouveau.
En quel sens?
C'est cette exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, qui alimente présentement des changements majeurs chez nous. Depuis les années 80, la place de l'enseignement religieux, quelle que soit la religion, dans nos écoles publiques, s'est vue de plus en plus mise à part. Et depuis l'an 2000, il n'y a plus de place pour l'enseignement religieux de type catéchétique à l'école. Alors, il a fallu reprendre ça en paroisse, comme si nous avions des classes à la paroisse. Et là, avec le tournant missionnaire, on réalise que non, le véritable acteur principal de la catéchèse auprès des enfants comme des adultes, c'est la communauté chrétienne. C'est-à-dire c'est toute la famille qu'il faut accueillir et vivre avec elle cette catéchèse qui doit trouver sa racine dans la rencontre de la communauté chrétienne, notamment le dimanche. Et dans un monde très séculier comme le nôtre, être témoin dans notre vie quotidienne du Christ, il faut qu'on se trouve des lieux de ressourcement.
Et comment Evangelii Gaudium vous a aidé dans cette réflexion?
Vous savez, dans Evangelii Gaudium, on parle par exemple de cette structure de la paroisse. On parle d'abord que quand on est baptisé, on est un disciple missionnaire. Je dois témoigner dans toute l'épaisseur, la largeur, la longueur de ma vie que le Christ est présent. Alors, ce n'est pas un missionnaire prosélyte. Ça commence par le témoignage de la vie personnelle qui donne le goût à l'autre de vivre la même chose. Alors, dans la joie de l'Évangile, on parle aussi de la joie. Nous venons d'une Église qui, avant 1965, contrôlait, et il faut le dire comme ça, tout le système d'éducation, tout le bien-être social, tous les champs d'entraide. Et pour ce qui est du monde scolaire, c'était de la naissance jusqu'à la fin de l'université. Et aujourd'hui, on n'est plus dans rien de cela. L'État a pris en charge beaucoup, en succession, non pas en rupture. Alors, nous devenons des partenaires. Et il faut que nous, comme partenaires, on fasse sentir que ce qu'ils font pour transformer un monde en un monde meilleur apporte de la joie pour tout le monde entier. C'est la mission de l'Église. Ce n'est pas son succès personnel.
Alors, cette mission de l'Église, elle a besoin de moyens, des moyens financiers, des moyens humains. Comment est-ce que ça s'use dans votre diocèse?
L'état des revenus correspond un petit peu, beaucoup chez nous, à l'état de la pratique dominicale. Comme le nombre a diminué beaucoup, eh bien, c'est sûr que les ressources financières ne sont pas toujours au rendez-vous. Par contre, eh bien, c'est mettre à profit beaucoup de bénévolat. C'est réveiller chez les gens le goût de participer à la vie de leur Église. Dans un monde aussi où notre Église est totalement responsable de ses finances, de son bâti, de son patrimoine, eh bien, elle doit donc retrouver chez les communautés chrétiennes des partenariats avec les municipalités, avec la grande commune en général, la société, pour maintenir des monuments qui sont souvent l'identité culturelle aussi d'un village ou d'une ville. Chez nous, par exemple, l'évêché de Joliette est un édifice patrimonial que j'ai décidé de garder et de réhabiliter, mais j'ai découvert un magnifique partenariat avec la ville de Joliette qui m'aide parce que pour eux, c'est un édifice qui représente une identité, c'est un patrimoine identitaire. Je vous donne un autre exemple. En 3 années, nous avons refait toute la couverture de la cathédrale et c'est un donateur. Il l'a payé. Alors, ça nous crée des opportunités, mais l'Esprit-Saint est au rendez-vous. Il n'y a peut-être pas de compte en banque, l'Esprit-Saint, mais il est pas mal bon, parce qu'il y a des gens qui se réveillent. Moi, je suis très, très confiant que d'ici très, très peu de temps, notre Église au Québec, et on nous l'a dit ici, nous allons devenir une Église fort différente. Fort différente.
Fort différente dans quel sens?
Bien, dans le sens que nous avons, comme un peu partout dans le monde, un village, un clocher, une ville, 10, 12 églises. On n'a plus besoin de tout cela. Alors, il y a des opérations qu'il faut faire pour changer. Je vous parlais de partenariat avec les municipalités, les églises qui peuvent être soit transformées en partie ou totalement. Mais ça nous demande, comme communauté chrétienne, comme fidèles, de se regrouper. En se regroupant, eh bien, on se découvre de nouvelles capacités. Ce que va devenir cette Église-là, moi, je pense que c'est de la vie. En quittant une chrétienté, l'Église, je pense, retrouve sa véritable place, celle d'annoncer le Christ. Parce que quand on est en chrétienté, on l'annonce pas tant que ça, puisque tout le monde, par défaut, le connaît ou pense le connaître. Mais quand on n'est plus en chrétienté, il faut être missionnaire.
Vous parlez des relations avec les municipalités, avec l'État. Il y a une des questions, il me semble, au Québec, qui a été importante. C'était une loi sur la neutralité religieuse de l'État. Où en est ce projet de loi?
Bien, écoutez, moi, je pense que dans une société comme la nôtre, ça ne joue pas contre nous, dans le sens que la liberté de conscience et la liberté religieuse, c'est un choix personnel qui se vit en communauté. Je vous parlais des partenariats avec les villes. Nous avons, en général, très bonne entente avec les municipalités, mais ils sont un peu embêtés avec cette notion de neutralité de l'État, puisqu'une ville fait partie de l'État. Mais on a développé, à cause de cela, cette idée du patrimoine identitaire. Si, par exemple, la fête de Saint-Jean-Baptiste, qui est le patron du Québec, est importante, mettons qu'il y a une tradition de fête et que dans cette tradition du 24 juin, il y a une messe, ce qui est le cas souvent, la ville va participer musicalement, au niveau d'une certaine rencontre fraternelle après la messe, la sécurité, elle va participer parce que c'est un patrimoine identitaire. Là où il y a encore des petits problèmes, c'est que, par exemple, au niveau du monde hospitalier, l'État développe des animateurs de vie spirituelle. Alors, quand arrive le temps de vivre un sacrement à l'hôpital, ils sont obligés de faire appel à des curés. Avant, il y avait des aumôniers. Alors, on était un peu en... On a de la difficulté à s'ajuster là-dessus, mais ça va. Alors, moi, je suis pas du tout contre cette neutralité de l'État, au contraire. Et je trouve que ça peut établir dans notre société le bien-être, le vivre ensemble.
Au Canada et puis au Québec en particulier, à la question des migrants, comment est-ce que vous, dans votre diocèse, dans votre ville, comment est-ce que ça se vit, cette question-là, qui est aussi fortement présente au Canada?
Vous savez, on a eu chez nous, concrètement, à l'Église du Québec, 2 vagues d'immigration à cause, justement, de situations difficiles dans le monde. On a eu, dans les années 80, une vague avec les Vietnamiens. Ce sont des gens qui sont énormément intégrés chez nous, énormément. Nous connaissons donc la vague de migration présentement et au Canada, on a décidé par la voie de l'État d'en accueillir 40 000 provenant principalement de Syrie et du Liban. Il y a ceux qui viennent parce qu'on fait un regroupement de familles, mais il y a d'autres migrants qui arrivent et qui n'ont personne. Et là, c'est les communautés chrétiennes souvent qui en ont pris le relais. Moi, chez nous, au diocèse, on a eu une famille. Chez nous, on a une culture, au niveau des Québécois, énormément d'ouverture. Je ne dis pas ça pour vanter la province chez nous. Et ça, je pense que ça vient directement de notre héritage catholique. Le Québec, le Saint-Père l'a dit encore ce matin, a été une pépinière de missionnaires à l'étranger. On a inondé le monde de missionnaires. Aujourd'hui, c'est un peu la pénurie, mais cette idée d'ouverture sur le monde et de don de soi, c'est resté dans la population quelque chose de très important. Et peut-être aussi le fait que nous venons de communautés qui ont été obligées de se serrer les coudes, hein, comme on dit chez nous. Je pense que les migrants s'intègrent bien. On n'a évidemment pas la même pression qu'il y a en Europe, parce que qu'est-ce que vous voulez, l'océan à la nage, ça se fait pas.
En quoi cette visite à Limina, ici au Vatican, va vous permettre d'avancer aussi sur ce sujet-là? Vous avez dit que vous avez été beaucoup écouté. À quoi ça sert, finalement?
On a atteint trois objectifs. Le premier, c'est vivre ensemble le Collège épiscopal du Québec pendant 3 semaines. Nous nous rencontrons, bien sûr, chaque année. Mais là, vivre ensemble et partager ensemble avec les dicastères, avec le Saint-Père, sur notre situation et nos projets ensemble. Ah ben ça nous a fait avancer pas mal, pour vaincre un peu peut-être l'isolement chacun dans notre diocèse. Donc, deuxième conséquence, je pense que nous allons partir avec le goût d'établir encore davantage un projet missionnaire plus commun, à la grandeur de notre province. Et troisièmement, ben, je pense qu'on repart en comprenant qu'il faut écouter. On vient d'une histoire d'une église, nous, l'église a parlé beaucoup, elle a parlé fort, elle a réglementé, elle a fait la morale. On doit rester une église à l'écoute. On a une belle expression qu'on a expliquée ce matin au Saint-Père. Chez nous, au Québec, on dit à quelqu'un « tu es parlable ». Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on dit à l'autre « puisque tu écoutes, je peux tout te dire. Tu ne me juges pas. Tu es parlable ». Alors, on veut devenir une église parlable. Et on a dit au pape qu'il était lui-même parlable.
Une dernière chose, par rapport à l'actualité, on sait qu'au Québec, il y a des inondations très fortes. Quelle est la situation dans votre diocèse, par exemple? Quelles sont les nouvelles que vous avez?
Alors, j'ai justement pris hier l'information que c'était rendu un peu chez nous, parce que nous, j'ai un diocèse qui longe le fleuve Saint-Laurent, et ce dernier a un égo qui gonfle. Là. Alors, c'est quand même pas... Il y a 9 municipalités chez nous qui ont décrété un état d'urgence, qui ne sont pas encore inondés, mais on sait qu'en fin de semaine, ça ne s'améliorera pas. Alors, ce genre d'événement, on a eu le verglas en 1999, le verglas qui avait paralysé, et là, c'était bien pire, c'était l'hiver, il n'y avait pas de chauffage. On a eu des inondations en 2011 du côté de la vallée du Richelieu. C'est un pays où le climat est violent et ça provoque toujours beaucoup de solidarité et de fraternité. Tout n'est pas parfait. J'ai communiqué ce matin avec le curé de cet endroit. Fantastique, les emails. Et je sais qu'ils sont en partenariat, les bénévoles de la communauté chrétienne, avec les municipalités, leurs municipalités, pour venir en aide à ces gens. Évidemment qu'on ne peut pas faire grand-chose d'autre que de s'accueillir. Il faut laisser Mère Nature reprendre sa place et réparer les dégâts. Et ça va prendre bien du temps. Dans ces moments-là, il y a toujours des gens qui sont moins satisfaits. Moi, je suis convaincu que les autorités civiles et les paroisses font le maximum.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.